Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal. Je suis Gisèle Cage à la présentation et voici les titres de ce jour. Forum national sur le droit à la réparation. Félix Tshisekedi plaide pour la justice et la dignité des victimes. Lancé à Kinshasa sous l'égide du Fonarev, ce forum marque une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale des réparations. Objectif, permettre aux victimes des conflits en RDC de retrouver leurs droits, leur voix et leur place dans la société. Violence meurtrière au Nord Kivu. 5 morts et 3 blessés dans une série d'attaques armées survenues mardi. Le quartier Ndosho à Goma et la localité de Sake figurent parmi les zones les plus touchées par ces incidents sécuritaires. Lutte contre l'alcool et le tabac chez les jeunes à Goma. Daniel Kambale, étudiant en nutrition et santé publique à l'ISTEM Bukavu, s'engage à travers une campagne de sensibilisation menée par l'Église adventiste. Il insiste sur l'importance de l'éducation, de la prévention et de l'accompagnement communautaire pour construire une jeunesse responsable. Il est l'invité de ce journal. C'est tout pour les titres. À Kinshasa, les mots du président Félix Tshisekedi ont résonné comme un appel à la justice et à la dignité retrouvée. Il est temps de transformer la douleur en action, le silence en parole et les engagements en réparation concrète. C'est dans ces temps empreints de gravité et d'espoir qu'il a ouvert ce mardi le Forum national sur le droit à la réparation, une rencontre majeure dédiée aux victimes des conflits en RDC, organisée par Fonarev. Avec le soutien du ministère des droits humains, ce forum de 4 jours vise à franchir une étape décisive, finaliser la stratégie nationale de réparation et lancer officiellement le programme qui permettront aux victimes de retrouver leurs droits, leur voix et leur place dans la société. Retrouvez cette déclaration présidentielle dans cet extrait choisi par Grace Amzati.
Ce forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation n'est pas un rendez-vous ordinaire. Il marque une rupture décisive avec l'oubli, l'indifférence et l'impuissance. Il traduit l'engagement résolu d'une nation qui choisit de placer la dignité des victimes au cœur de sa quête de justice et de réconciliation. Car il n'y a pas de paix véritable sans vérité, sans justice, sans mémoire. Le droit à la réparation n'est ni un privilège, ni une faveur. C'est un droit fondamental, consacré par nos engagements nationaux et internationaux et constituant l'un des 4 piliers essentiels de la justice transitionnelle aux côtés de la vérité, de la justice et des garanties de non-répétition. À travers ce forum, le gouvernement réaffirme sa volonté inébranlable de ne laisser aucune victime dans l'ombre. Les violences sexuelles liées au conflit, les crimes de guerre et les violences graves des droits humains ne sauraient rester sans réponse.
Justice, démocratie et fraternité, telles sont les valeurs fondatrices autour desquelles s'est tenue ce mardi à Kinshasa une nouvelle étape de l'initiative Pacte pour la paix et le bien vivre ensemble, portée par la CINCO et l'ECC. L'atelier organisé dans le cadre du dialogue national a réuni des professeurs d'université pour une réflexion approfondie sur le principe démocratique dans le but de contribuer à l'édification d'une nation forte, unis et résolument tournés vers l'avenir. Un reportage signé Jeff Ngoy.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de clarification des valeurs et transformation des attitudes pour une citoyenneté responsable et la promotion du vivre ensemble en RDC. L'objectif est de renforcer et pérenniser l'engagement politique et électoral des citoyens, dont les scientifiques et les organisations de la société civile. Cyril Botoko, secrétaire de la Commission épiscopale justice et paix de la CINCO.
Nous avons mis au centre un concept important, la nation, et nous avons jeté un lien entre
la nation et le pacte social pour la paix et de bien vivre ensemble en RDC dans la région de Grand Lac qui est porté par le tandem Senko SCC.
Le pacte pour la paix et le bien vivre ensemble représente une démarche innovante et nécessaire pour repenser la cohésion nationale selon Joseph Bolessé, chargé de programme.
Il y a une valeur qui est la démocratie que nous partageons et cette démocratie que nous avons choisie dans notre pays va déboucher sur les élections afin que nous ayons des dirigeants qui puissent pouvoir mettre au profit de tous les citoyens le bien commun qu'est la République démocratique du Congo. Le pacte social voudrait que le peuple congolais soit d'abord un peuple uni.
Organisé avec les acteurs de la société civile, des ateliers vont se poursuivre prochainement avec les acteurs politiques.
Reportage de Jeff Ngoy. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CINSA salue la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda à Washington sous l'égide des États-Unis. Dans une communication faite mardi à Kinshasa, cette structure estime que cet accord est un premier pas vers la paix durable, l'allègement des souffrances physiques et morales de la population congolaise ainsi que la normalisation des relations diplomatiques avec le Rwanda. Cependant, Joseph Olenga Nkoy, président du CENSA, insiste sur la nécessité d'un dialogue national. Grâce à Mouzati nous fait le point.
Bien qu'il félicite le gouvernement pour l'aboutissement de cette démarche diplomatique, Joseph Olenga Nkoy souligne néanmoins que vu la nature de cet accord de paix qui comporte des aspects commerciaux et au regard de certaines dispositions du dit accord, son passage obligé au Parlement n'est pas une simple formalité cosmétique, mais plutôt une exigence constitutionnelle fondamentale. Il se réfère à l'article 214 alinéa 1 qui dispose, je cite, « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échanges et adjonctions des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. » Fin de citation. Maintenant que les volets extérieurs de ces conflits est en voie de résolution, ajoute Joseph Olenga Nkoy, le CENSA réitère sa recommandation sur le caractère incontournable du dialogue national inclusif. C'est pour amener les frères et les sœurs des mêmes pays à se parler à propos de leur avenir, pour lesquels ils sont tous unis par le sort, pour laisser à leur prospérité un Congo havre de paix, fort et prospère, conclut-il.
En lien avec l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le groupe de contact international présidé par l'Allemagne salue cet accord de paix signé à Washington. Dans un communiqué publié le 29 juin, le groupe félicite les deux pays pour cette avancée significative en faveur de la stabilité régionale. Il appelle également à une mise en œuvre rapide, inclusive et durable de l'accord afin de consolider les acquis du dialogue. Les détails avec Martial Papimukeba.
L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, les Royaumes-Unis, la Suède, la Suisse et l'Union européenne, membres du groupe de contact international, saluent la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda comme une avancée décisive vers une solution pacifique au conflit dans la région des Grands Lacs. Ils félicitent le secrétaire d'État américain Marco Rubio pour son rôle dans ce succès considérable. Le groupe appelle à la mise en œuvre rapide de l'accord conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU en insistant sur le respect de l'intégrité territoriale, la fin des hostilités, l'accès humanitaire sans entrave et le retour digne des déplacés. Il salue les dispositions relatives à l'intégration économique régionale, reconnaît les efforts des forts Nyasingwe mandatés par l'Union africaine et ceux du Qatar dans la médiation entre la RDC et le M23. En fait, le groupe insiste sur l'importance d'une approche inclusive impliquant la société civile et réitère son soutien aux efforts de la MONUSCO. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité le lundi 30 juin la résolution 2793 prolongeant jusqu'au 1er juillet 2026 le régime de sanctions imposé à la République démocratique du Congo. Présentée par la France, cette résolution renouvelle les mesures relatives aux embargos sur les armes, les restrictions financières et les interdictions de voyage. Elle réaffirme toutefois l'exception accordée aux forces armées et de sécurité de la RDC conformément à l'accord du 2 mai 2024 leur permettant de recevoir équipements et assistance militaire. Les précisions avec Christian Mapendano
Le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU a remercié l'ensemble des membres du Conseil pour leur engagement lors de ces négociations. Jérôme Bonafont fait savoir que ce régime de sanctions et son groupe d'experts sont des outils centraux pour lutter contre les violences et la déstabilisation dans l'est de la RDC. Au cours de cette même rencontre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit le mandat du groupe d'experts assistant le comité de sanctions 1533 jusqu'au 1er août 2026. Cela dans un contexte d'instabilité régionale, alors que l'armée rwandaise et les rebelles du M23 consolident leur position dans les zones qu'ils contrôlent dans l'est de la RDC en installant des administrations parallèles. L'organe exécutif de l'ONU a également exprimé son intention de prendre les mesures appropriées sur une nouvelle prorogation au plus tard le 1er juillet 2026. Dans la foulée, il a demandé au groupe d'experts de lui fournir, après discussion avec le comité, un rapport à mi-parcours au plus tard le 30 décembre 2025 et un rapport final au plus tard le 15 juin 2026, ainsi que de mise à jour mensuelle.
Nord Kivu, journée hier marquée par la violence. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et 3 autres ont été blessées lors de différents incidents sécuritaires. Les faits se sont déroulés à Ndosho, un quartier périphérique de Goma, ainsi qu'à Sake, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville. À Ndosho, il s'agirait d'un acte de banditisme urbain, selon les premières informations recueillies. En revanche, à Sake, les décès seraient liés à une opération de bouclage menée par les rebelles du mouvement AFC M23, affirment nos sources locales. Les précisions avec Blaise Makassi.
À la tombée de la nuit hier mardi, 3 bandits armés opérant sur une moto ont fait irruption dans une boutique vers 19h30 dans le petit marché sur l'avenue opposée à l'entrée CBC Andosho. Ces derniers, dont un à tenue militaire, ont aussitôt ouvert le feu sur les propriétaires de la boutique, un client et une autre personne qui était de passage. 2 sont morts sur le champ, alors que le troisième a été conduit en urgence à l'hôpital, gravement blessé. Dans la même soirée, un autre jeune a été retrouvé mort après une fusillade d'hommes armés au niveau de l'avenue Kasavubu au quartier Keshero, portant à 3 le nombre des victimes de ce énième cas de banditisme urbain dans la ville de Goma. Par ailleurs, les sources locales à Sake, à 30 km de Goma, dressent un bilan définitif d'au moins 2 personnes tuées et 2 autres blessées. Ces personnes se sont fait tirer dessus lors de l'opération de bouclage menée dans la matinée d'hier mardi par les éléments rebelles de l'AFC M23 dans 4 quartiers de Sake. Les rebelles auraient soupçonné les victimes d'être des collaborateurs présumés des Wazalendo, FARDC ou rebelles rwandais FDLR.
Sachez aussi que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a entamé ce mardi une visite d'inspection dans les états-majors de grandes unités des forces armées de la RDC à Kinshasa. Guy Kabombo Mwadiamvita s'est successivement rendu dans les installations de la réserve de l'armée de défense et à la haute cour militaire. À travers ces visites, il vise à recueillir des informations en vue de réformer l'armée congolaise. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le quartier général de la réserve de l'armée défense a constitué la première étape de la visite du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Le coordonnateur de cette structure, lieutenant général Padiri Boulenda, a salué l'implication personnelle du patron de la Défense nationale dans la reconstruction des FARDC à tant qu'armée forte. Guy Kabombo Mwadiamvita a ensuite visité les installations de la haute cour militaire où un briefing sectoriel lui a été présenté par le premier président de cette juridiction militaire, lieutenant général Mutombo Katalayo. Ce dernier a circonscrit le champ d'action de la justice militaire et exposé quelques préoccupations liées à l'exercice de leur métier. Il a clôturé sa tournée à l'état-major général, précisément au commandement des services de communication et de formation des forces armées que pilote le général-major Sylvain Ikenge. À travers ses visites, Guy Kabombo Mwadiamvita tient à matérialiser la vision du commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi, celle de reconstruire et de redynamiser l'armée congolaise à la fondant sur une véritable industrie de défense.
Au Katanga, à Lubumbashi, un braquage audacieux s'est produit ce mardi. Au quartier Caravia, le supermarché Kinmarché a été pris pour cible par des malfrats qui, selon des témoins, ont réussi à emporter une importante somme d'argent en utilisant une arme factice. Face à la recrudescence du banditisme urbain, le commissaire provincial de la police du Haut Katanga appelle la population à renforcer sa collaboration avec les forces de l'ordre. Il recommande notamment l'usage des sifflets, vuvuzela et autres instruments sonores pour alerter rapidement la police en cas de danger. Le détail avec Paulin Munanga.
L'attaque s'est produite pendant la journée de ce mardi. Des personnes non autrement identifiées déguisées en agents de sécurité ont braqué les supermarchés dénommés Kinmarché. Des témoins rapportent que les malfrats étaient munis d'un jouet pour enfants en plastique qui ressemble à une véritable arme à feu. Ils ont neutralisé le gérant du supermarché et ont réussi à emporter une importante somme d'argent avant de disparaître dans la nature, signalent les mêmes sources. Pendant ce temps, la police a présenté à la presse 16 présumés criminels. C'était au cours d'une mini-parade hebdomadaire organisée ce lundi à Lubumbashi. Parmi ces présumés criminels, un civil habillé en tenue de la garde républicaine et qui se faisait passer pour un militaire de cette unité d'élite. Deux bandits de grand chemin considérés comme des repris de justice, des casseurs de vitres, des voleurs de véhicules et des pickpockets. À cette occasion, le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, demande à la population de se munir de sifflets, de vuvuzela et autres instruments pour faire du bruit et alerter la police en cas d'une attaque des bandits. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans la même veine, au Kasaï oriental, coup de filet réussi pour la police nationale congolaise en Mbujimayi. Trois groupes de présumés bandits accusés de semer l'insécurité dans la commune de Bipemba ont été arrêtés et présentés hier mardi au gouverneur de province par le commissaire provincial de la police. Les explications avec Esther Ndalafina.
Les trois groupes de bandits composés de civils et de quelques policiers sont soupçonnés d'avoir opéré dans une église et dans des maisons résidentielles où ils ont blessé les propriétaires avant d'emporter quelques biens de valeur. Ces présumés bandits se sont accaparés de plusieurs téléphones, des batteries rechargeables ainsi que des ordinateurs dans les installations d'une antenne de téléphonie cellulaire. Augustin Kayembe, gouverneur de province intérimaire, a félicité les autorités de la police pour la lutte contre la criminalité qui bat record ces derniers temps dans la commune de Bipemba.
Ce qui me fait mal, parmi eux, il y a des policiers. J'avais dit au général, dans la plupart des cas, la population s'est plaint que nous sommes insécurisés par les hommes en uniforme. C'est-à-dire, on te pointe toi du doigt, le chef. Alors, tu dois être très regardant pour que cette histoire ne se passe plus ici, dans ma province. Bonus coup de chapeau, mon général. Je vous instruis d'auditer que ces policiers puissent subir la rigueur de la loi.
Signalons que les propriétaires des objets volés par ces bandits ont participé à cette cérémonie réclamant la restitution de leurs biens. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, une pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Kisangani dans la nuit de lundi à mardi, causant d'importants dégâts matériels. Le déluge qui a duré de 3 heures du matin jusqu'aux environs de 8 heures a provoqué des inondations massives, l'effondrement de plusieurs habitations, des glissements de terrain et la perte de nombreux biens. Les quartiers situés le long des rivières Kabondo et Tchopo figurent parmi les plus durement touchés par cette catastrophe naturelle.
Actualité internationale.
Le département d'État des États-Unis annonce qu'en ce 1er juillet, le président Trump a signé un nouveau décret mettant fin au programme de sanctions générales contre la Syrie ainsi qu'à l'état d'urgence nationale lié à ce pays. Toutefois, certaines mesures restrictives demeurent en vigueur. Les sanctions continueront de s'appliquer aux individus et entités associés au régime de Bachar al-Assad, aux auteurs de violations de droits humains, aux trafiquants de captagon aux personnes impliquées dans les anciennes activités de prolifération de la Syrie ainsi qu'aux affiliés de Daesh et Al-Qaïda et aux mandataires terroristes liés à l'Iran. Le décret prévoit également un assouplissement ciblé de certaines restrictions sur l'exportation vers la Syrie. Ces décisions traduisent la volonté du président de favoriser une nouvelle dynamique dans les relations entre les États-Unis et la Syrie stable, unifiée et en paix avec elle-même et ses voisins.
L'invité.
Comment accompagner efficacement la jeunesse de Goma dans la lutte contre la dépendance à l'alcool et au tabac? C'est autour de cette problématique que l'église adventiste des Mabanga Nord a mené pendant 2 semaines une campagne de sensibilisation auprès de la population locale. Pour mieux comprendre les objectifs et les retombées de cette initiative, nous recevons aujourd'hui Daniel Kambale, étudiant en master complémentaire en nutrition et santé publique à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM de Bukavu. Il est également l'un des organisateurs de cette campagne. Il s'entretient avec Bernardine Diambo.
Monsieur Kambale et Daniel, bonjour.
Okay, bonjour.
Vous menez une campagne ici à Goma, ça se tient ici à l'église adventiste Mabanga. En quoi consiste cette campagne que vous êtes en train de mener?
La campagne consiste à un sevrage alcoolique et tabagique. Il y a un programme qu'on appelle plan de 5 jours de l'OMS. Pour lutter contre les drogues. Ce sont des stratégies que nous donnons, qui cadrent sur le plan psychologique, physique, moral, spirituel. Il y a aussi une alimentation qui aide à désintoxiquer les malades afin de quitter les problèmes de consommation de drogues. Quand on consomme les drogues, on entre dans le phénomène qu'on appelle la dépendance alcoolique ou tabagique. Maintenant, la plupart des gens qui fument et qui boivent ont du mal à se faire sauver d'eux-mêmes. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un accompagnement sur le plan santé, sur le plan nutrition, sur le plan spirituel et sur le plan économique afin d'aider ces jeunes à quitter cette manie. Maintenant, si nous continuons à ne pas prendre à charge notre jeunesse, nous allons perdre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, les enfants de la rue, qui consomment l'alcool, le tabac, le chanvre et aussi d'autres drogues dont on ignore peut-être les noms, qui pourraient, comme la caféine, la théine, les chichas.
Cette campagne que vous menez part de quel constat?
C'est pourtant la problématique de la consommation de drogues dans notre pays. Il y a des boissons fortement alcoolisées qui sont consommées plus par les jeunes, les filles et les adultes. Maintenant, vous allez voir qu'en consommant de l'alcool, on est en train de dépasser de l'argent qui pourrait servir à autre chose. On est en train de développer des maladies. Il y a beaucoup de cas de maladies mentales qui se font voir dans notre milieu. Maintenant, en plus de cela, il y a des cas de maladies organiques comme l'épilepsie, les cas de cancer des poumons, cancer de la langue, cirrhose hépatique, attendez, impuissance sexuelle. Toutes ces maladies, dans la plupart des cas, sont liées à la consommation de drogues. Maintenant, si nous continuons à ne pas prendre à charge notre jeunesse, nous allons perdre beaucoup de gens.
Alors, quelles sont les méthodologies que vous mettez en place peut-être pour lutter contre la drogue et...
La première méthode, c'est d'abord la sensibilisation. Donc, on sensibilise à la personne afin qu'il puisse prendre de lui-même la décision. On le fait comprendre les conséquences, les effets des drogues sur la santé, sur l'économie. Maintenant, partant de ça, une fois il est sensibilisé, on leur montre les conséquences et les stratégies pour pouvoir quitter cette mauvaise situation-là. Maintenant, il y a un accompagnement spirituel, il y a un accompagnement psychique, il y a l'alimentation, il y a aussi des médicaments qui aident à couper cette dépendance. Dans 5 jours.
Est-ce que les jeunes acceptent facilement?
Ils acceptent facilement puisque la plupart des jeunes sont entrés dans cette dépendance suite à une mauvaise compagnie. On a sauvé beaucoup de gens à Beni, à Putembo, à Mahagi. Il y a des gens qui se sont mariés, il y a des gens qui ont des voitures, il y a des gens qui se sont bâtis des maisons. Quand un jeune voit un autre jeune déjà évoluer, il est sensibilisé par le comportement de la personne qui a été sauvée avant lui.
Alors, pendant 5 jours seulement,
okay.
Quelqu'un qui est dépendant de la drogue peut cesser de boire et de fumer.
Il cesse de boire, mais maintenant, il y a un accompagnement pendant une affaire de 3 à 6 mois. Donc, un suivi post-traitement.
Et qu'est-ce que vous allez lui prescrire pour qu'il puisse cesser?
Une alimentation, il y a des antioxydants. Donc, ce sont des substances nutritionnelles qui éliminent les radicaux libres dans l'organisme. Maintenant, pour enlever ces déchets au niveau des cellules, il y a des substances qu'on appelle antioxydants qu'on retrouve dans les fruits comme l'ananas, l'orange, aussi la carotte comme légumes, la canne à sucre. Et nous prescrivons aussi la cure d'eau. Maintenant, ce sont ces éléments-là qui vont aider plus en évitant aussi la consommation de piments, du café, du thé, qui sont stimulants pour activer la consommation des drogues. Donc, nous demandons aux gens de prendre conscience de la conséquence des drogues sur leur santé, sur leur économie, et de prendre la décision de venir se faire consulter et prendre la décision de prendre les médicaments et être accompagné pour quitter cette mauvaise attitude.
Merci beaucoup, monsieur Damien.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Daniel Kambalé, notre invité du jour, étudiant en master complémentaire en nutrition et santé publique à l'Institut supérieur des techniques médicales de Bukavu. Il a partagé avec nous son analyse et son engagement dans la lutte contre la dépendance à l'alcool et au tabac chez les jeunes. Un échange conduit par Bernardine Diambou à retrouver en intégralité sur nos plateformes. C'est la fin de ce journal. Il a été présenté par Gisèle Cage, mis en onde par Dieudonné Nyangassa sous la coordination de Élisée Chikota. Merci pour votre fidélité et votre attention. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel. Portez-vous bien et à la prochaine sur la même fréquence.